Monsieur Grimm, bonne nouvelle, j'étais... Qu'est-ce que c'est que toutes ces bouteilles vides sur le sol? Qu'est-ce que ça fait là, tout ça?
Bonsoir, Max Schneider.
Monsieur Grimm, mais pourquoi vous mettez-vous dans des états pareils, enfin? Est-ce qu'il faut que je vous appelle une ambulance? Oui, voilà, c'est ça. Rotez deux fois pour oui, une fois pour non. Vous voulez une ambulance, monsieur Grimm? Vous êtes sûr? Tout va bien? C'est une bonne chose. Mais écoutez, je vais vous préparer un remède contre la gueule de bois très efficace. Hein. J'ai vu ça dans un film. En attendant, vous voulez que je lance le générique? D'accord. C'est ce bouton-là? C'est ce bouton-là? Celui-là? Celui-ci, alors? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est parti. Alors, ça va mieux, monsieur Grimm?
Oui, plus ou moins. C'est vrai que c'est efficace, votre remède, là.
Eh oui, je vous l'ai dit, j'ai vu ça dans un film de Robert Zemeckis et...
Oui, d'accord. Mais écoutez, je vais me prendre un petit martini, et puis on pourrait...
Monsieur Grimm, voyons!
Mais écoutez, il faut que je dépète un peu, là, il faut que j'avale quelque chose, et bon, je crois que j'ai plus rien dans les placards, en fait.
Mais justement, j'ai de quoi manger, je vous amenais des pommes de mon jardin.
Attendez, c'est pour ça que vous débarquez à toutes les heures de la nuit en criant bonne nouvelle? C'est parce que c'est la saison des pommes? Waouh. Pourquoi pas?
Tenez.
Oula. J'ai réussi à l'attraper en plus, hein. C'est de bon augure pour la suite, hein. Ouais, enfin pas dégueu. Mais ça fait un peu bizarre quand même parce que ça vient du jardin, quoi. Je veux dire, c'est pas passé en usine ou en magasin. Et au fond, c'est vrai que on a un peu perdu l'habitude, hein, nous les humains, de manger des trucs qui viennent du jardin.
Ça enregistre, il faudrait peut-être penser à...
Enfin, je commence. Hein.
Bon, je suppose que je vous laisse, alors.
Mais non, mon cher maître. Hein. Allez, venez vous asseoir à côté de moi, vous allez m'aider à faire des petites voix, vous allez voir, c'est super marrant. On y va?
Oui.
Bon, allons-y. Notre histoire commence par un matin pluvieux. Oui, une aube sujette à la brume. Oui, à l'air humide qui rend de mauvais poil l'homme qui doit se lever de bon matin. Mais dans notre histoire, l'homme qui est au centre de toute chose était déjà levé depuis bien plus tôt que ça. Oui, il s'agit du capitaine von Pruten. Sévère policier. Oui, le capitaine de la milice de ce royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, et dont le sol est propice à la poussée des carottes. Vous connaissez à force, hein? Et donc, ce brave capitaine von Pruten était dans son bureau, dans le donjon de la milice, dans cette capitale blablabla, attendant quelque ordre de mission ou d'enquête. Et justement, à ce moment précis, on frappa à la porte.
Ouais, entrez.
Bonjour, capitaine.
Bonjour, Bretzen. Alors, qu'est-ce qui vous amène?
Eh bien, j'ai un ordre de mission pour vous. Ce message s'autodétruira après récitation.
Bien, je vous écoute, Bretzen.
Alors voilà, il y a eu un suicide à la ferme de Samuel. Vous êtes prié d'aller enquêter. Nos hommes sont déjà sur place, mais ils vous attendent pour diriger les opérations. Voilà, merci. Bon, maintenant, je dois m'autodétruire. Hein.
Oui, faites donc ça.
Cette fenêtre ne s'ouvre pas.
Vous devez débloquer la sécurité.
Ah oui, d'accord. Eh bien, merci. Bonne journée, capitaine.
Bonne journée, Bretzen.
Merci, capitaine.
Après réception de cet ordre de mission, le brave capitaine von Pruten se rendit à la ferme de Samuel, afin d'enquêter, donc, sur un étrange suicide qui a eu lieu là-bas.
Bonjour, madame. Alors, c'est vous qui avez trouvé le corps?
Oui, tout à fait. Je suis allée chez lui pour lui emprunter de la farine. Je l'ai trouvé là.
D'accord. Vous savez quand ça s'est passé?
Je ne sais pas du tout. Mais dans un tel état, ça doit faire... un moment.
Oui, capitaine, ça doit bien faire une bonne semaine, là.
D'accord. Je vais voir. Raccompagnez donc cette dame chez elle, Pringles.
Oui, capitaine.
Le capitaine von Pruten entra dans la ferme. À l'intérieur, rien ne semblait vraiment insolite ou suspect. Sauf, évidemment, le corps putréfié et boursouflé de Samuel, qui était encore la tête dans le four à gaz, donc dans la cuisine. Mort, aussi mort qu'on puisse l'être, hein, surtout après une bonne semaine, hein, enfin, je vous laisse imaginer. Et donc, vu l'odeur pestilente qui se dégageait, von Pruten préféra aller enquêter un peu du côté de la chambre à coucher.
Là, ça pue moins.
Lorsqu'il y entra, une chose attira son attention. le lit était défait. Bon, rien de fort peu banal là, au fait que le lit soit défait, mais son instinct de policier lui somma d'aller voir ça de plus près. C'est comme un réflexe, hein. Pavlov aurait été passionné par ce genre de cas. Mais bref, il s'approcha des draps, et là, il trouva quelque chose qui l'intrigua énormément. En fait, par-ci, par-là, sur le drap, se trouvaient de longs cheveux noirs. Il en prit un en main, l'observa de près, et s'interrogea, parce qu'au fond, c'était étrange, hein. Samuel avait les cheveux marrons et courts, alors que sa voisine Sandrine les avait blonds. Donc, il conclut.
Il y a une autre femme dans l'histoire. Ce n'est peut-être pas un suicide, finalement.
Sur cette belle conclusion, notre ami von Pruten rejoignit ses miliciens à l'extérieur. Alors qu'il marchait vers eux, un cri strident se fit entendre au loin. Il regarda dans la direction d'où venait le cri et vit un âne courir frénétiquement vers lui en poussant des cris, des hennissements agaçants et perçant les oreilles. Une fois que l'âne fut arrivé, il gigota, il secoua la tête, sauta sur place, hurlant, gémissant, semblant vouloir dire quelque chose. Mais évidemment, les miliciens n'étaient pas idiots et ils savent bien qu'un âne ne peut pas parler. Alors, toujours en proie à son grand esprit logique, notre ami le capitaine von Pruten conclut.
Cet animal est manifestement enragé. Pringles!
Oui, capitaine?
Veuillez mettre un terme aux souffrances de cet animal.
Oui, mais comment je fais ça, capitaine?
Bah, avec votre épée, bougre d'abruti.
À vos ordres, capitaine. Allez, viens, petit âne, viens. Tiens, prends ça, et ça, et ça.
Oh, mais non! Voilà une séquence violente. Ah, ça faisait longtemps, mais quand même, hein. Allez, à la place, on vous offre un extrait inédit de Star Wars.
Luke.
Ouais, quoi? Qu'est-ce que tu veux?
Luke, je suis ta tante.
Alors que les miliciens finissaient d'achever l'animal à coups de semelle, quelque chose attira à nouveau le regard du capitaine von Pruten. Il se dirigea vers le sentier qui jonche la ferme de Samuel et remarqua des traces de pas. Mais plus exactement des traces de sabots, et manifestement les sabots de l'âne. Apparemment, la bestiole était revenue il y a peu, quelques jours au plus, d'un long trajet. Oui, les empreintes étaient encore assez fraîches, et cela intrigua beaucoup notre ami le capitaine.
Messieurs, veuillez nettoyer et puis surveiller le corps. Je reviens. Je crois que j'ai trouvé une piste.
Notre ami le capitaine von Pruten avança, suivant le sentier, allant jusqu'au cœur de la forêt. La forêt touffue, la forêt boisée, oui. Ce qui compliquait un peu les choses parce que, oui, du coup, le sol est couvert de feuilles mortes. Ce qui fait que le capitaine von Pruten s'embrouilla un peu dans les pistes et se mit à suivre les traces de la jeune fillette très très moche que l'âne et Marianne avaient croisée un peu plus tôt dans un autre épisode. Et oui, il suivit les traces de pas de la fillette, ce qui, après un long moment de marche, l'amenait au pied de la montagne du mage. Mais du sommet de cette montagne, de petits yeux observaient la scène avec attention. Oui, c'était la jeune fillette très moche transformée en autruche. Elle était pleine d'espoir en voyant ça, parce qu'elle pensait...
Oh, c'est merveilleux, quelqu'un a retrouvé ma trace. C'est super, il va venir me chercher, m'aider à descendre, et peut-être même que je pourrai retrouver mon apparence de jolie femme idéalement. Je suis sauvée, oui!
De son côté, le capitaine, lui, était un peu désarçonné, parce que les traces s'arrêtaient au pied de cette montagne, et il était un peu perdu du coup, alors il contourna un peu les lieux, marchant, et soudain, s'arrêta net, car une odeur âcre flottait dans l'air. L'odeur d'un cadavre, l'odeur de la putréfaction. En bon flic, tel une mouche, il suivit cette odeur, ce qui le mena jusqu'à un rocher un peu en surplomb, duquel dépassait une main d'homme, une main un peu verdâtre car pourrie. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus étrange caractérisait ce rocher. Car au pied de celui-ci se trouvait tout un petit tas de bouquets de fleurs. Avouez que c'est quand même pas commun comme histoire. Von Pruten s'approcha, regarda, étudia la chose. C'était pour le moins peu ordinaire comme situation. Cela l'intriguait beaucoup. Alors qu'il était en pleine méditation, face au spectacle qui s'offrait à lui, un immense rugissement se fit entendre juste derrière lui. Sursautant, il se retourna et eut juste le temps de voir que se trouvait face à lui un gigantesque blob pustuleux et manifestement très en colère. Le blob se jeta sur lui et lui arracha les membres à coups de dents et...
Oh non! Et voilà qu'on retombe encore dans la violence. Mais c'est pas bien ça. Allez, à la place, nous vous offrons un extrait d'une magnifique pièce de théâtre.
Bonjour, monsieur le vendeur.
Bonjour, monsieur l'acheteur.
Donnez-moi une boîte de capote, s'il vous plaît. ça fera 2,40.
Et voilà.
Hé, hey, vous me prenez pour un lapin ou quoi?
Je comprends pas.
J'ai dit 2,40, pas 2 carottes.
Suzy, le blob boutonneux est maintenant repu. Et tant qu'à être à côté du rocher qui a vu agoniser son ami à l'aide, elle se recueille un moment. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'acoustique particulière de cette région montagneuse a fait que, de la ferme de Samuel, les autres miliciens ont pu entendre les cris de leur capitaine. Et donc, ils organisent une battue pour aller le retrouver, et lorsqu'ils trouveront Suzy le blob, ils le massacreront. Le lendemain, Charles Piton, le chasseur maladroit qui a fait du pied de cette montagne son terrain de chasse vu la bonne expérience qu'il y a vécue la fois dernière, trouvera le cadavre du blob et ne sachant pas vraiment ce que c'est, il s'en foutra et le ramènera quand même, le mangera. Et lui et sa femme mourront car bon, non seulement la viande sera un peu avariée mais en plus, les blobs boutonneux ne sont pas spécialement réputés comestibles, hein, je sais pas si vous êtes au courant. Et bon, du côté de Marianne, cette chère Marianne, un an après, elle se suicidera, car trop rongée par la solitude et le remords. Voilà, donc, comme je vous le disais l'autre fois, hein, on sait comment mes histoires se terminent. Il hein, y a un destin funeste à tous les protagonistes, ils sont tous morts. Et dans l'épisode prochain, je pensais vous expliquer un peu la genèse de tout ça. Oui, ce sont des histoires sans début, mais encore qu'en ce qui concerne plus particulièrement tous les personnages jusque-là, il y a quand même, disons, un point de départ à tout ça. Bon, un point de départ qui n'est pas un début, on va dire, cosmique, je veux dire, parce que quand on dit qu'un moment est un début, il y a toujours des choses qui se sont passées avant. Donc finalement, c'est pas vraiment le début dans le sens début, mais c'est le début de la fin que vous connaissez déjà. Vous suivez? Oui, enfin bon, voilà, enfin, vous verrez l'épisode prochain. Hein.
Moralité de l'histoire.
La vie est courte.